Imaginons une seconde, la scène. Un des intellectuels les plus respectés de la capitale, vraiment une voix écoutée par tous les puissants, qui décide un matin de retirer ses vêtements.
Ouais, carrément, dans la rue.
Voilà, il ne garde qu'un simple bout de tissu, il marche pieds nus dans les rues bondées du centre-ville. Et en fait, c'est pas juste une performance artistique d'un après-midi, tu vois.
Non, c'est pas un happening.
C'est ça, il le fait tous les jours, pendant 3 ans. C'est un acte de protestation d'une intensité folle. Le but, c'est de briser une sorte d'illusion collective. Et le truc fou, c'est que c'est précisément ce qui s'est passé dans l'Antiquité, au cœur de Jérusalem.
C'est une image incroyable pour commencer.
N'est-ce pas? Du coup, aujourd'hui, on plonge au cœur d'un document vraiment fascinant. On va analyser en profondeur les notes de conférence du docteur John Oswalt. Ça porte sur les chapitres 19 à 21 du livre d'Ésaïe.
Un texte très riche, oui.
Et le but de notre immersion aujourd'hui, c'est pas juste de faire un cours d'histoire antique, c'est d'extraire de ces textes des pépites de sagesse sur une question qui est toujours d'actualité. En gros, quand la tempête approche, quand tous nos systèmes s'effondrent, en qui ou en quoi on place notre confiance?
C'est la grande question humaine, en fait. La réponse spontanée, à l'époque comme aujourd'hui, c'est toujours de chercher l'abri le plus massif, la structure qui semble indestructible, quoi.
Le truc le plus visible.
Exactement. Et les notes du docteur Oswalt, elles mettent vraiment en lumière cette dynamique universelle, ce besoin désespéré de sécurité tangible quand tout devient chaotique autour de nous. Dans le texte, il est question de la menace terrifiante de l'Empire assyrien. C'était une machine de guerre implacable.
La superpuissance agressive du moment.
C'est ça. Et face à ça, le petit royaume de Juda cherche frénétiquement un allié. Du coup, leur regard se tourne naturellement vers le sud, vers l'Égypte.
Le candidat idéal sur le papier, en fait. L'autre superpuissance.
Ah oui, incontesté à l'époque.
Mais pour comprendre pourquoi cette alliance était une erreur monumentale, une erreur qui a quand même poussé un prophète à marcher nu dans la rue, on y reviendra, il faut d'abord saisir pourquoi l'Égypte semblait si irrésistible. Qu'est-ce qui donnait à cette nation cette aura d'invincibilité?
En fait, il y avait 3 piliers fondamentaux qui soutenaient cette illusion. Le premier, c'est vraiment la dimension religieuse. L'Égypte de l'Antiquité, c'était la culture la plus imprégnée de mysticisme du Proche-Orient.
Genre, des dieux pour tout?
Littéralement, une divinité pour chaque micro-aspect de l'existence. Pour situer un peu, les historiens considèrent que cette densité religieuse n'a été égalée dans l'histoire moderne que par l'hindouisme.
Ah ouais? À ce point-là?
Ouais. L'Égypte s'était perçue comme la grand-mère de la civilisation. Donc pour les nations autour, s'allier à l'Égypte, c'était s'allier à un peuple qui avait, en gros, domestiqué le divin.
Donc on a cette suprématie mystique, mais bon, une aura religieuse, c'est bien, sauf que ça n'arrête pas une armée assyrienne. Il fallait bien une force de frappe tangible, non, Yann? À moteur économique?
Et le deuxième pilier fournit exactement ça, l'abondance matérielle. Et en Égypte, c'est entièrement dicté par la nature. Enfin, la nature là-bas, ça se résume à une seule entité géante. C'est le Nil.
Bien sûr, le fleuve.
La géographie est unique au monde. Sur ses 600 derniers kilomètres, le Nil ne reçoit pas un seul affluent. Conséquence de ça, ses crues annuelles étaient d'une prévisibilité absolue.
Comme une horloge.
À la même semaine, chaque année, le Nil montait, irriguait les terres, puis redescendait. C'était une machine agricole d'une précision terrifiante. Ça transformait un désert en grenier à blé. On pouvait avoir un pied dans le sable brûlant et l'autre dans un champ luxuriant.
C'est fou, c'était vraiment le grenier de l'Antiquité en fait. Tout le monde dépendait d'eux.
Absolument. D'ailleurs, des siècles plus tard, l'obsession des Romains pour Cléopâtre, c'était pas qu'une affaire de romance.
Non, c'était la politique.
C'était de la sécurité nationale pure et dure, pour garantir le flux des immenses navires céréaliers vers Rome.
C'est fascinant, cette confiance absolue dans la prévisibilité d'un système. Pour le coup, je suis frappée par la ressemblance avec notre dépendance actuelle envers nos infrastructures. Nos chaînes d'approvisionnement en flux tendu, nos algorithmes prédictifs.
C'est exactement la même psychologie.
On s'habitue à ce que les supermarchés soient pleins, à ce que l'énergie coule sans interruption. Et puis, un seul porte-container se met en travers du canal de Suez, de manière ironique en Égypte d'ailleurs, et toute l'économie mondiale panique.
Ouais, on est très vulnérable.
La source souligne vraiment à quel point on est désemparé quand la nature ou les systèmes déraillent. Pourquoi on est toujours aussi surpris?
Parce qu'on oublie la fragilité des choses. Les notes de conférence donnent des exemples très parlants de cette arrogance humaine. Prends le Dust Bowl des années 30 en Amérique. Des décennies de mauvaises pratiques agricoles ont fini par transformer les plaines en tempêtes de poussière mortelle.
L'illusion que la nature va toujours encaisser.
Voilà. Ou un autre exemple, l'ouragan Sandy. 30 ans avant que Sandy n'inonde les tunnels du métro de New York, des ingénieurs avaient prédit cet impact très précis, mais les mesures ont été ignorées.
Probablement jugées trop chères, j'imagine.
Exactement, des raisons de coût. Le mécanisme psychologique est le même. On confond la régularité de la nature avec de la bienveillance. On finit par adorer le système au lieu de voir sa fragilité.
C'est très vrai. Donc, on a la religion, on a l'économie infaillible du Nil. Il manque le troisième pilier.
Le troisième, c'est la sagesse politique et la longévité des institutions. L'Égypte, c'était l'ancien empire, le temps des grandes pyramides. Quand des figures très anciennes comme Abraham et Sarah ont voyagé en Égypte, les pyramides étaient déjà là depuis 8 siècles.
Waouh ! C'était déjà des attractions touristiques, en fait.
C'est ça. Cette profondeur historique a créé des cours royales d'une complexité inouïe. Les premiers proverbes de sagesse, des sortes de manuels diplomatiques sur comment se tenir devant un pharaon sans déclencher de guerre, tout ça vient de là.
Le CV parfait, quoi. Mystique, richesse, sagesse millénaire. Mais le texte d'Ésaïe, d'après la source, balaye toute cette façade avec une violence inouïe. Les idoles tremblent, les conseillers d'État si brillants deviennent soudainement incapables de formuler une stratégie. Et le Nil, on annonce qu'il va s'assécher. Comment Ésaïe déconstruit tout ça? C'est quoi la différence de mentalité derrière cette critique?
Il démasque un choc frontal entre deux visions de la réalité. Le grand problème de l'Égypte, c'est sa vision païenne du monde. Et c'est une pensée qui ressemble beaucoup à nos approches très matérialistes aujourd'hui. Dans ce cadre, l'univers n'est qu'une série de cycles naturels aveugles, infinis, sans aucun but.
Juste la nature qui fait son truc.
Voilà, les saisons tournent, les empires montent et tombent, le fleuve déborde. Le seul objectif, c'est de survivre au prochain cycle. Il n'y a pas de plan. Mais le dieu dont parle Ésaïe n'opère pas dans des cycles, il a un plan.
Et le texte insiste lourdement là-dessus. J'ai remarqué cette expression qui rythme le passage, répétée 5 ou 6 fois. En ce jour-là.
Oui, en ce jour-là. C'est l'introduction fracassante du temps linéaire. C'est une vraie révolution philosophique. Demain ne sera pas juste une répétition de la crue du Nil d'hier.
Il y a une direction.
L'histoire a une trajectoire, une destination finale. Le paganisme cherche le confort dans la routine. Le texte prophétique pointe vers un but.
Alors attends, parce que si tout fait partie d'un grand plan, si l'histoire a une trajectoire, est-ce que ça ne mène pas direct au fatalisme? On pourrait se dire que Dieu se contente de regarder les accidents arriver depuis son nuage, non?
Ce qui est une objection très classique. Mais c'est là qu'il faut vraiment séparer le fatalisme païen de l'idée de rédemption. La source aborde cette nuance avec une anecdote moderne très éclairante, celle du pasteur Ron Smith.
Oui, l'histoire de l'aéroport, c'est ça?
Exactement. Il se retrouve coincé à l'aéroport d'Amsterdam. Son passeport est périmé de quelques jours à peine. Résultat, il subit des heures d'attente, il est harcelé par la sécurité, il rate ses correspondances. C'est la journée cauchemar absolu.
Le moment où tu te sens complètement impuissant face à une bureaucratie absurde.
Et face à ça, le cerveau a 2 réactions par défaut. Soit on se dit que l'univers est chaotique et vide de sens, c'est juste de la malchance. Soit, si on est religieux, on tombe dans un déterminisme punitif, genre « Dieu a organisé cette torture pour me punir ».
Ce qui est une vision assez toxique.
Complètement. L'analyse propose une troisième voie. Dieu rachète les événements. Ça veut dire qu'il ne cause pas forcément la négligence, le passeport périmé ou l'agressivité des douaniers. Mais une fois que l'événement a lieu, il le récupère.
Ils l'ont fait quelque chose.
Il l'intègre dans une trajectoire où cet incident peut produire de la patience, une rencontre imprévue, un bienfait. Le temps linéaire, c'est pas un script dicté d'avance. C'est la promesse qu'aucun chaos n'est irrécupérable.
Donc si on applique cette idée de rédemption à l'Égypte, le chapitre 19 décrit un jugement très sévère. Effondrement politique, assèchement des ressources, logiquement, on devrait tourner la page, l'Égypte est finie. Mais le texte prend un virage spectaculaire, non ?
Un virage incroyable. Le texte annonce la rédemption de l'Égypte. C'était un scandale théologique pour l'époque. Ésaïe prophétise que l'Égypte finira par ériger un autel à la frontière, qu'ils crieront à lui et que le Seigneur se fera connaître.
C'est fort.
Et attention, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas de mot pour désigner la religion comme un simple comportement de la vie. Connaître Dieu, c'est une dévotion totale. L'oppresseur suprême, la nation idolâtre, est destinée à faire partie de l'histoire.
C'est magnifique. Mais du coup, ça nous amène sur un terrain glissant. Dès qu'un texte ancien parle d'autel en Égypte ou de géopolitique au Moyen-Orient, une partie du public sort son calendrier et essaie de faire correspondre les versets avec les gros titres de l'actualité.
Ah, la prophétie comme emploi du pont géopolitique. La source est très critique là-dessus. Le docteur Oswalt dénonce l'utilisation de la prophétie comme une boule de cristal. Il cite l'exemple de certains télévangélistes, comme Jack Van Imp.
Celui qu'on surnomme l'homme Teflon, c'est ça
le... Voilà, le Teflon Man. Pendant 70 ans, cet homme a enchaîné les prédictions apocalyptiques basées sur l'actualité. Il s'est trompé sur tout, absolument tout, pendant 7 décennies. Et pourtant, son audience n'a jamais cessé de le suivre. D'autres, en 79, ont cru que le traité de paix entre l'Égypte et Israël accomplissait littéralement Ésaïe 19.
Mais pourquoi on a ce besoin viscéral de s'accrocher à des prédictions qui échouent constamment? C'est quoi le mécanisme psychologique?
C'est simple. L'incertitude est terrifiante. Une fausse carte géographique sera toujours plus réconfortante que pas de carte du tout. Ces prédictions donnent l'illusion que le chaos géopolitique est en fait maîtrisé. Mais c'est une déformation du vrai but de la prophétie.
Alors c'est quoi le véritable but, si c'est pas nous donner les gros titres de demain
La prophétie prédictive a deux vrais buts. Le premier, c'est de donner confiance aujourd'hui. Savoir que le futur est entre les mains de Dieu, ça permet de traverser l'effondrement actuel sans paniquer.
Un ancrage pour le présent.
Exactement. Le second but, c'est de renforcer notre certitude une fois la prophétie accomplie. C'est a posteriori. Regarde les pharisiens. Ils avaient tout faux à la naissance de Jésus, parce que ça ne correspondait pas à leur grille de lecture humaine. C'est rétrospectivement qu'on comprend.
Je vois, mais revenons à notre histoire de départ. On a les Judéens, terrifiés par l'Assyrie, tentés de s'allier à l'Égypte. Un simple discours théologique n'allait pas suffire. Il fallait un choc visuel. Et là, on revient au chapitre 20. Notre prophète nu.
Oui, le messager devient le message. Ésaïe reçoit l'ordre de marcher dans les rues, dépouillé, vêtu d'un simple pagne au bikini de l'époque, et pieds nus pendant 3 ans.
3 ans ? Mais c'est impensable ! Pourquoi choisir de s'humilier à ce point ? Et pourquoi on exige ça de lui ? Ça me fait penser à Ézéchiel à qui on a demandé de cuisiner sur des excréments. Pourquoi une telle violence envers les prophètes ?
C'est parce que l'enjeu dépasse le confort du messager. Le peuple allait signer un pacte suicidaire. L'acte d'Ésaïe, c'est une aide visuelle choc. Il mime très exactement comment les Assyriens allaient emmener les prisonniers égyptiens en exil. Dépouillés, humiliés, enchaînés.
Il devient, dans sa chair, l'avertissement.
Voilà. Et ça montre qu'il était disponible et obéissant. Faire passer ce message crucial de survie était plus important que de ménager la fierté du prophète. C'est le modèle de la confiance. Obéir, même quand on ne comprend pas pourquoi.
Surtout que l'histoire allait lui donner dramatiquement raison, non? Il y a cet exemple de la ville d'Ashdod dans le texte.
Oui, l'histoire politique d'Ashdod illustre parfaitement ça. Le roi...
Il pensait en sec y être en sécurité.
L'abri solide?
Sauf que la diplomatie égyptienne est pragmatique. Face aux pressions de la Syrie, les Égyptiens ont fait leurs calculs et ils ont livré le roi d'Ashdod aux Assyriens eux-mêmes. Le message d'Ésaïe était clair. L'Égypte finit toujours par vous vendre.
Le système en lequel tu mets ta confiance finit par te sacrifier pour sa propre survie. C'est glaçant. Bon, on pourrait s'arrêter là, mais le chapitre 21 s'attaque à la bête noire absolue, Babylone.
Babylone, c'est l'oppresseur suprême, le sommet de l'arrogance impériale. Et le texte décrit sa chute avec une vision fascinante. L'attaque par l'Élam et la Médie, les ancêtres des Perses. Il y a cette ironie du titre « Le désert de la mer ».
Un oxymore.
Oui, ça pointe du doigt que toute l'hyperconnectivité et la richesse maritime de Babylone finiront stériles. On voit des scènes de chaos, le fameux festin de Belshazzar, avec les coupes volées du temple, la main qui écrit sur le mur, et les réfugiés fuyant sur des ânes, le long des routes vers Édom. La machine implose.
Mais là, la source relève une étrangeté, un paradoxe émotionnel déroutant. C'est la chute de l'ennemi absolu. On devrait assister à une explosion de joie. Pourtant, la voix dans le texte, que ce soit celle de Dieu ou d'Ésaïe, est saisie d'angoisse. Elle est pliée de douleur, comme une femme en train d'accoucher. C'est absurde. Ne devrait-il pas célébrer la défaite des méchants?
C'est contre-intuitif, c'est vrai. Mais c'est l'une des révélations les plus profondes sur le cœur de Dieu. La justice doit s'accomplir, oui. Dieu apporte des conséquences. Mais la destruction, ça, lui brise le cœur.
Même pour ses ennemis?
Oui. L'expert utilise une analogie très forte. C'est comme punir son propre enfant. Le parent sait que la conséquence est inévitable et nécessaire pour stopper un comportement destructeur. Mais on le fait en pleurant. Il n'y a pas de triomphalisme sadique dans la justice divine.
C'est une vision incroyablement nuancée. Et au milieu de ce deuil sur Babylone, Il y a quand même un message d'espoir pour les victimes, pour les exilés, n'est-ce pas?
Oui, le prophète s'adresse à ceux qu'il appelle « battus et vannés ». L'image est brutale, c'est le grain de blé écrasé par le bœuf, puis séparé de la paille par le vent. Le message pour eux, c'est « ne vous assimilez pas à Babylone ». Elle a l'air éternelle aujourd'hui, mais elle est finie. Tenez bon, car un jour Cyrus vous laissera rentrer.
Tenez bon, ne vous assimilez pas. Ce qui nous amène à la conclusion de toute cette analyse, on a l'Égypte, on a Babylone. Et les notes du docteur Oswald se terminent sur l'image d'un veilleur sur sa tour, observant les routes caravanières.
C'est une image très poétique. D'ailleurs, la source fait le lien avec un vieil hymne de John Bowring, « Watchmen, tell us of the night ». Le veilleur qui scrute l'obscurité, non pas par désespoir, mais parce qu'il cherche la lumière. Il attend l'étoile du matin, l'arrivée d'une vraie paix.
La grande leçon, c'est qu'il faut refuser de placer notre confiance ultime dans la politique, la richesse matérielle ou même la nature, car toutes ces choses finissent par céder.
Tout s'effondre en jour, oui.
Exactement. Et ça me laisse avec une pensée finale, une réflexion qui m'est venue en lisant ces sources. Si nos Égyptes et nos Babylones modernes, qu'il s'agisse de nos géants de la technologie, de nos alliances politiques soi-disant inébranlables ou de nos systèmes économiques, si tout ça est fondamentalement aussi fragile que ces empires antiques, quelle est la seule chose vraiment inébranlable sur laquelle nous devrions bâtir notre existence aujourd'hui, avant que la tempête ne frappe?
C'est vraiment la question cruciale à se poser.
Une vraie remise en question pour chacun de nous. Merci à tous d'avoir suivi cette immersion profonde. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration de ces textes anciens.
À très bientôt.